Audiolib présente Il suffira d'un signe. Les Dames de Marlowe, tome 2 de Robert Thorogood. Traduit de l'anglais par Sophie Brissot. Lu par Rachel Arditi. Ce livre est dédié à Jack Thomas, 1941-2021. Des grilles de mots croisés que vous pouvez télécharger sur notre site internet ont été spécialement créées pour accompagner cette histoire. Au cours de l'enquête, lorsque vous entendrez ce son, vous pourrez, si vous le souhaitez, mettre votre lecture en pause et remplir les grilles pour vous immerger davantage dans l'histoire. Chapitre 1. Après l'été trépidant qu'elle avait passé, Mrs. Judith Potts reprit en hiver le cours d'une vie plus tranquille et plus solitaire. Elle se réveillait tard, regardait un peu la télé, faisait des réussites, sortait se promener quand l'envie lui en prenait, ce qui, pour être honnête, ne lui arrivait pas très souvent, et s'assurait de consacrer chaque jour le temps nécessaire à la composition de ses grilles de mots croisés cryptiques pour la presse nationale. Quand les lumières de Noël apparurent dans High Street, la rue principale de Marlowe, elle fit comme chaque année et se mit discrètement en retrait des festivités. Non qu'elle eût quoi que ce soit contre Noël, bien au contraire. Mais elle trouvait que cette fête appartenait à d'autres gens qu'elle, parents de jeunes enfants ou familles accrochées comme des berniques à cette allégresse obligatoire. Si Noël était pour elle une sorte de corvée, et la semaine séparant Noël du jour de l'an une déconcertante période de grand néant, Judith savait que janvier, c'était son mois, probablement celui qu'elle préférait. Elle n'avait de compte à rendre à personne, aucun endroit où on lui demandait d'aller. Elle avait alors tout loisir de recharger ses batteries et de faire le point sur l'année écoulée. Sans oublier ses baignades sauvages, bien entendu. Sous aucun prétexte, elle n'aurait laissé l'hiver l'empêcher de nager presque quotidiennement dans la Tamise. Quand il faisait très froid, elle ne s'y attardait pas. Mais elle ne ratait jamais cette occasion de communier avec la nature et adorait ce picotement frais qui parcourait sa peau toute la journée. Elle plongeait d'autant plus volontiers quand elle avait besoin de trouver la solution d'un problème. C'est pourquoi elle barbotait en ce matin de janvier. Elle avait une énigme à résoudre. Celle-ci s'était présentée peu avant, quand elle avait ouvert le Marlowe Free Press du jour. En ce début d'année, la Gazette était encore plus pauvre en nouvelles que d'ordinaire. L'article principal était consacré à la fermeture brutale d'une boîte postale de quartier. Mais ce qui intéressait surtout Judith, c'était la grille de mots croisés cryptiques. Elle en venait à bout relativement vite, mais il y avait une clarté, une simplicité dans les définitions qui lui plaisaient. Ce matin-là, elle s'était mise à la tâche, comme d'habitude, mais une fois la grille terminée, elle y avait jeté un dernier regard et sentit que quelque chose clochait. Son inconscient essayait de lui transmettre un message dont elle n'arrivait pas à saisir la nature. Judith détestait tout ce qui finissait en queue de poisson. Les énigmes étaient là pour être résolues. C'est pourquoi elle avait décidé d'y réfléchir sérieusement pendant sa baignade matinale. Et parce qu'elle pensait beaucoup plus à ses mots croisés qu'à ce qui l'entourait, elle eut la mauvaise surprise de devoir affronter un signe en combat singulier. C'était tout à fait involontaire, comme elle l'expliquerait plus tard dans la journée à ses amis Bex et Suzy. Selon elle, ce n'était absolument pas sa faute, mais celle d'un canard mort qu'elle avait trouvé flottant au milieu du fleuve. Ça ne ressemblait d'ailleurs pas du tout à un canard au début, plutôt à deux brindilles orangées émergeant de l'eau. Mais en s'approchant, elle découvrit le corps blanc, le cou et la tête du canard sous la surface et vira de bord vers le virage, prise de panique à l'idée de frôler le cadavre. C'est pourquoi elle se retrouva, sans l'avoir cherché, au beau milieu d'un groupe de cygnes, une mère et ses petits. Comme on était en janvier, les cygnes avaient presque atteint leur taille adulte. Cela n'empêcha pourtant pas leur mère de se cabrer en sifflant, les ailes déployées, d'une envergure plus large que Judith n'était haute. Elle se demanda s'il était possible de maîtriser la maman cygne en l'attrapant par le cou, mais comme toute personne ayant été éduquée en Grande-Bretagne, elle savait qu'un cygne peut vous casser un bras d'un coup d'aile. Il lui apparaissait clairement par ailleurs que la vision d'une femme de 78 ans complètement nue, aux prises avec un cygne, avait quelque chose d'assez incongru. Parce